C'est une révolte.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit groupir !
But alors, you are French ?
Et toc, remonte ton sclibard, Lothar.
Monsieur ! Un sarrasin !
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle.
Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire en direct du studio pour la deuxième émission spéciale Portrait d'Histoire en compagnie de Arthur Lenger. Bonjour Arthur Lenger.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université du Mans, historien spécialiste du Moyen-Âge et également membre du laboratoire CREA, qui est le centre de recherche en archéologie, archéosciences et histoire du CNRS. Et donc merci d'être avec nous. Également l'équipe au complet, composée d'abord de Salouane. Salut Salouane.
Comment tu vas ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va très très bien.
Également Thomas. Ça va mon petit Thomas ?
Super, super. Et toi ?
Eh bah, très très bien. Et puis j'ai dit au complet parce que Gauthier
le retour.
Est de retour de Lille exprès pour l'émission. Donc, incroyable, merci beaucoup Gauthier. Comment tu vas ?
Très bien et toi ?
Bah ça va encore une fois super depuis trois fois que je le dis.
J'espère que tu dois bien aller.
Je crois que ça va. Au programme de l'émission, on commencera par revenir rapidement sur votre parcours Arthur Lenger. Et on abordera ensuite la question de la médiation scientifique, c'est-à-dire finalement comment rendre accessible et compréhensible à toutes et tous les travaux scientifiques. Et on abordera dans un troisième temps la question de la représentation du Moyen-Âge dans la fiction moderne, que ce soit les films, séries, jeux vidéo, etc. On terminera également par votre portrait d'histoire et un petit jeu si on a le temps. Bref, un sacré programme que l'on va entamer tout de suite en démarrant donc par votre parcours Arthur Lenger. Un petit peu long cette. Et donc, on le disait, ouais, vous êtes donc enseignant-chercheur à l'Université du Mans. D'abord, une question peut-être toute simple finalement, mais comment est-ce que bah, vous en êtes arrivé là ? Pourquoi avoir choisi cette voie qui n'est pas si facile d'ailleurs, enseignant-chercheur ? Ça, on a de cesse de le répéter quand on est étudiant en histoire, c'est que c'est une voie très difficile à prendre. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est pas du tout un choix évident et c'est pas du tout venu comme ça en fait. Parce que je suis un peu un transfuge d'une certaine façon, parce que j'ai commencé en fait ma scolarité du côté des sciences dites dures en fait, et j'ai fait une licence de physique chimie en fait, pas du tout d'histoire.
Ouais.
C'est venu par après en fait, parce que bon j'ai toujours aimé l'histoire, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et j'ai eu l'occasion de faire en fait une reprise d'études, c'est pour ça que je suis un peu vieux entre guillemets pour un jeune doctorant et du coup oui j'ai eu l'occasion de faire des études d'histoire de me réinscrire en histoire. Alors initialement le projet c'était de faire professeur dans le secondaire en fait.
D'accord.
Pas du tout de faire de la recherche pour être tout à fait franc avec vous et en fait ça je pense que c'est dès la première année je me suis dit non il y avait peut-être quelque chose à faire parce que comment dire. En fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai eu d'une certaine façon un espèce de coup de foudre avec la méthodologie de la recherche en histoire, en fait. Mmh. Alors que bon, c'était la première année, et bon, comme vous l'avez sans doute déjà tous fait, ça reste léger, hein.
Ouais.
Mais comparé à ce que j'avais fait en physique chimie, il y a quelque chose qui me parlait plus, en fait. On était moins sur faire des exercices, un peu ce que vous avez peut-être fait dans le secondaire, hein, des exercices de maths, de physique à la chaîne, sans forcément comprendre vraiment pourquoi. Là finalement les exposés déjà qu'on a à faire qui sont une sorte de mini recherche finalement m'a intéressé dans le sens où bah ouais en fait on a un sujet plus ou moins vaste alors plutôt restreint bien évidemment comme vous l'avez vu dans les premières années parce que bah, on débute
tout ouais, ça
Mais c'est à nous-mêmes d'aller consulter tout ce qu'on peut, de juger de la qualité des sources déjà, alors à une modeste échelle en première année bien évidemment, mais quand même déjà. Et en fait, c'est ça que j'imaginais d'une certaine façon, j'imagine, comme étant de la recherche en fait. Et du coup, forcément, ça m'a beaucoup plu. Mmh. Et donc, bon, là déjà, il y a eu ça. Et après, il y a eu la catastrophe totale en deuxième année, en fait, où en deuxième année, poursuivant cette idée de bon, ok, d'accord, l'histoire, ça fonctionne comme ça, on a des sources, on a des textes, mais on n'utilise pas que ça pour faire de l'histoire, comme vous le savez aussi sans doute. Totalement. On a d'autres sciences historiques, comme par exemple l'archéologie, qui permettent d'obtenir des renseignements sur les sociétés anciennes. Et là, en fait, ça a été deuxième coup de foudre, en fait. Je me suis inscrit pour faire une fouille archéologique en me disant, bon, tu vas au moins pour voir comment ça fonctionne. Pour que tu puisses au moins avoir la compréhension de, ouais, mais comment on produit des données à partir du terrain. C'était vraiment, pour le coup, juste une curiosité, comme encore ça, une fois, voir. Méthodologique. Ouais. Ouais, vraiment juste pour voir. Et en fait, sur le chantier, pareil, ça a été coup de foudre, quoi. Bah oui, c'est génial, en fait. Parce que je peux pas... Difficile d'expliquer ça, mais sur le terrain, ouais, il y a vraiment eu ce...
Il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est
ouais, il y a eu
la révélation, clics, ouais.
Ouais. Ouais, il y a eu ça parce que c'est à la fois, comment dire, ça reprend un peu la très célèbre doctrine, hein, un corps sain dans un esprit sain. Parce qu'on a à la fois, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on est en train de faire sur le terrain parce qu'on n'a qu'une chance, parce que bien évidemment, quand on fouille, on détruit notre objet d'étude. Ouais. Il faut pas se planter. Ouais. Donc on a à la fois, il faut intellectualiser ce que vous êtes, mais en même temps, vous avez le travail physique. C'est assez intéressant, quoi. Et qui plus est, il se trouve que, bien évidemment, il faut enregistrer tout ça. Et pour enregistrer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des maths, en fait. Ouais, parce qu'il faut dessiner les plans, et compagnie. Et c'est même, d'une certaine façon, ça, en fait, qui m'a fait un peu reconnecter à ce que j'avais fait précédemment dans mon cursus. Et qui m'a dit, là, en fait, je peux exploiter tout ce que je sais faire. Tout ce que je vais me faire. Autant le faire, quoi.
Mais c'était un liant de, enfin, c'est une manière de lier discipline, tous les...
c'est ça.
Ouais. 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 Et ça a continué, en fait. Donc, du coup, j'ai terminé mon cursus en histoire. Et au moment de faire, justement, mon master de recherche, la question était complète, qu'est-ce que je fais, finalement? Est-ce que je pars sur un thème qui m'intéresse? Par exemple, il y avait un thème un sujet que j'ai souvent repris dans les études pendant la première séquence de la licence. J'ai, par exemple, beaucoup travaillé sur la marine du 16e, 17e siècle. C'est quelque chose qui m'intéresse, je pourrais pas vous dire non plus pourquoi, c'est juste que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'était pas exclu du tout de faire mon master, en fait, dessus. Pourquoi pas? Mais il y avait quand même cette idée de, non, l'archéologie, c'est vraiment trop cool, en fait.
Ouais,
et pas juste faire de l'archéologie, mais vraiment lier, pour le coup, l'histoire et l'archéologie. Et là, là, en fait, il y a eu, alors, il est encore trop tôt, on en reparlera plus tard quand je serai vieux et qu'on fera ma biographie, quoi. Mais je déconne. Mais l'idée, c'est, je peux pas vraiment recomposer exactement dans quel temps ça s'est passé parce que c'est assez flou dans ma tête. Mais grosso modo, il y a mon actuelle directrice de recherche qui a bien flairé le filon, qui a vu, oulala, lui il fait de l'histoire de l'archéologie, déjà c'est pas mal. Mais en plus, il se trouve que dans son cursus, il avait fait de la chimie et elle m'a stricto sensu, mais grappin dessus, hein, on va pas se mentir. Non, vraiment. Hein. Alors comme dit, hein, peut-être ça s'est pas passé exactement comme ça, mais je le ressens comme ça en tout cas. Et c'est elle finalement qui m'a dit, ouais, moi je vous propose un sujet, vous faites tout, pas de problème, ça me pose pas de souci. Et du coup, j'ai embrayé là-dessus, quoi. Donc là-dessus, master d'archéologie, derrière master d'histoire pour avoir la double spécialité entre guillemets, quoi. Et le truc, c'est que donc ce fameux sujet, c'était de se poser la question comment on peut étudier un site justement en croisant tout. Parce qu'en croisant l'histoire et l'archéologie, vous avez sans doute déjà vu ça un peu. On a des études déjà dans les années 60, renouvelées dans les années 80 dans l'historiographie, où on a déjà des historiens et des archéologues qui travaillent ensemble pour étudier les maisons, pour étudier les villages. Chapelot, Fossier, tous ces gens-là, quoi. Et du coup, nous, l'idée, c'était, mais on va rajouter, du coup, l'analyse chimique là-dedans, vu que j'ai un petit bagage en chimie. Donc, les deux masters se passent, où j'étudie à la fois, du coup, je fais un master où je suis plus axé sur l'archéologie et la chimie, parce que, pourquoi? Parce qu'il se trouve que l'archéologie, c'est une science qui fait appel souvent à plein d'autres sciences, pratiquement toutes les autres sciences qui existent, en fait. Donc, ça se combinait bien. Ouais. Et le master d'histoire, du coup, où finalement, j'ai repris le site que j'avais traité sur mon master d'archéochimie, entre guillemets, pour traiter ce coup-ci les sources historiques, en fait, qui avaient rapport à ce site, tout bêtement. Et du coup, là, on avait un concept qui était plutôt pas mal, en fait, et qui, comment dire, qui change un peu finalement d'une étude un peu classique, un peu d'une certaine façon monographique.
Ouais, c'est une nouvelle approche, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que finalement, ma thèse, du coup, c'est, alors bon, il y a un titre un peu qui fait monographie du type, je suis même pas sûr de pouvoir le citer par cœur, pour tout vous dire. Mais grosso modo, l'idée, c'est l'étude des habitats ruraux médiévaux avec une approche pluridisciplinaire.
Bon, oui, bref, je l'avais, je crois que c'est modalité, c'est ça.
Voilà, c'est un titre 18e style, complètement long, qui est complètement imbuvable.
Tout le monde a envie d'en vivre.
Ouais, c'est ça, exactement. Quoi. Mais en fait, l'idée, en réalité, le vrai truc qui se passe, c'est qu'en fait, ce que je fais, je vais peut-être employer beaucoup je vais essayer de pas trop le faire parce que c'est pas rendre justice aux personnes qui travaillent avec moi. Parce que bien évidemment, moi, je suis un peu le porte-étendard du truc, mais bien évidemment, je travaille pas tout seul.
C'est ce que j'allais vous demander aussi. Du coup, c'est un peu un profil atypique de ce genre d'approche. Est-ce qu'il y a d'autres, enfin, ça se développe ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore très, peu développé, cette méthode?
Le vœu pieux, en tout cas, du CNRS, c'est de développer les approches pluridisciplinaires. D'accord. Depuis maintenant quelques années.
Ouais.
Le problème, bien évidemment, c'est que, aller trouver des gens qui se sont collés autant, d'années dans des secteurs très différents. Parce que, bon, ça peut paraître un peu évident pour vous, mais, rien que déjà faire de la pluridisciplinarité archéologie-histoire, c'est loin d'être évident.
Ouais.
Parce que c'est effectivement, quand bien même on a le même sujet d'étude, on a les sociétés anciennes, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout les mêmes méthodologies, pas du tout les mêmes bibliographies. C'est un travail, entre guillemets, différent, quoi. Donc déjà là, ça peut être compliqué de trouver quelqu'un qui fait les deux. Encore que ça existe, hein. Faut pas non plus déconner, il y en a quand même pas mal. Mais après, qu'il y a encore derrière une spécialité, une expertise, si vous voulez, dans une discipline, alors science dure, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, hein, mais on va l'utiliser comme ça, tout le monde comprend de quoi on parle. Mais qu'il y a du coup, en plus, une expérience en science dure, c'est quand même,
ça court pas les rues, quoi. C'est, ouais.
Oui, je vous cache pas que ça court pas les rues, parce que, encore une fois, il y a une certaine allergie, il y a une certaine frontière, entre guillemets, entre les sciences dures et les sciences humaines. Alors, frontière virtuelle, hein, bien évidemment.
Ouais.
Mais qui, quand même, a tendance à exister et qui a, c'est assez rare qu'on ait des littéraires qui se mettent à faire des maths ou qu'on ait des mathématiciens qui se mettent, à déclarer des poèmes d'Ovide, quoi.
C'est vrai que je crois vraiment.
Voilà. C'est des profils assez rares, quoi. Mais donc, du coup, l'idée, c'est quand même, effectivement, il y a une certaine volonté de développer ce genre de travaux. Parce qu'effectivement, déjà, on se rend compte qu'au final, dans l'absolu, là, la distinction, déjà, que je viens de faire entre les littéraires et les matheux, dans l'absolu, ça n'a pas de sens, en fait. D'un point de vue vraiment juste de la recherche ou des mécaniques cognitives, ça n'a pas vraiment de sens de distinguer les deux, en fait. Et c'est pour ça que finalement, même techniquement, là, on se présente comme historien, archéologue, ou quoi que ce soit, mais dans l'absolu, on devrait se présenter comme scientifique, tout court, et qui se spécialise sur un domaine.
Parce que c'est vrai que c'est un sujet très souvent, en fait, à l'esprit des gens scientifiques, c'est forcément...
C'est la physique, c'est les maths,
c'est la chimie.
Et ça, c'est vrai que c'est une tendance qu'on a...
Une pipette.
Sciences humaines.
Alors que les historiens sont tout autant scientifiques comme n'importe quel scientifique.
C'est une science, en fait. Que ça soit l'histoire ou l'archéologie ou la sociologie ou n'importe quelle science humaine, c'est des sciences et à juste titre. On en reparlera peut-être après justement dans la médiation, parce que c'est un enjeu de médiation d'ailleurs d'expliquer aux gens que, comme vous le dites, vous parlez de science, personne va vous mettre les historiens dedans. Enfin, personne, très peu de personnes.
En tout cas, c'est pas ce qui vient à l'esprit tout de suite.
Voilà. Donc l'idée, il y a aussi un enjeu là-dessus, quoi. Mais donc du coup, c'est des pratiques qui ont normalement vocation à se développer. Le problème, c'est qu'il faut trouver les gens, quoi, ou les former.
Ouais.
Mais le problème, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'argent, et malheureusement, on n'est pas dans un paradigme de la recherche qui est super cool, quoi, clairement.
Et puis les études longues, en plus, ça peut aussi repousser, enfin faire un peu peur aussi. Parce
c'est
vrai que.
Bah oui, parce que là, comme dit, hein, j'ai fait 3 ans en physique chimie. J'ai fait 3 ans d'après en licence d'histoire, j'ai fait 2 masters. Ça commence à faire beaucoup de, disons que les bandes de la fac ont beaucoup vu mon cul, quoi. Donc voilà, ça commence à faire long. Donc c'est un engagement. Après, le truc, c'est que effectivement, alors c'est le moment où je me lance des fleurs, mais je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui sont capables, qu'il y ait beaucoup de chercheurs qui soient capables d'avoir une approche comme ça sur les 3 disciplines à la fois.
Oui, ça devient un atout finalement.
Oui, c'est un atout, hein, mais c'est long à développer.
Donc c'est beaucoup recherché en fait dans le domaine.
En fait, dans l'absolu, oui, ça pourrait être beaucoup recherché. Le problème, c'est que ça fonctionne pas sur un système d'offres et demandes purement capitalistique, quoi.
Ouais.
Il y a pas, enfin là, le monde de la recherche fonctionne pas
mercato,
comme ça.
Mercato,
c'est ça. Ouais. Exactement, ça fonctionne pas comme ça, donc c'est plus compliqué, quoi. Mais dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, effectivement, c'est des profils qui sont cherchés parce que bah on peut faire des études complètes, quoi.
C'est intéressant. Savoir que plusieurs domaines sont nécessaires parfois.
Ouais. Bah surtout que c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui est commun et c'est une véritable approche qui apporte à la science, donc.
C'est ça.
Complètement. Bah, puis comme vous dites, deux disciplines qui sur le papier ne semblent si différentes, quoi.
Ouais. Mais typiquement, en archéologie, pour le coup, c'est rare qu'on n'ait pas... Enfin, en tout cas, quand vous poussez jusqu'au doctorat, c'est rare que vous spécialisez, vous n'acquériez pas une spécialité d'une certaine façon.
Totalement, ouais.
Ça soit, bon là, on parle de chimie, mais on peut parler d'anthracologie, donc l'étude des charbons, de carpologie, où on va étudier les graines. C'est plutôt de la biologie, pour le coup. Mais on est poussé à ça parce que bah déjà effectivement ça nous donne une spécialité qui nous rend plus intéressant pour le recrutement parce que pour le coup en archéologie il y a des entreprises privées donc dans l'absolu dans l'archéologie vous pouvez justement présenter un profil super diversifié avec des compétences de ouf là ça peut marcher parce qu'on est dans un système d'emploi entre guillemets classique quoi.
Et c'est vrai que l'archéologie, en plus, c'est un autre sujet qui pourrait être tellement intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qui semble tellement inaccessible aussi. C'est-à-dire que c'est très, après, parce que moi, j'ai.
Bon, c'est très stéréotypé aussi, je pense. Hein.
L'archéologie.
Je pense tout de suite au monsieur qui va dans les ruines égyptiennes.
Il y a beaucoup d'images, pas forcément ça, mais je veux dire par rapport au comment on devient archéologue, quoi, aujourd'hui. C'est pareil, ça paraît assez.
C'est sûr qu'en France, on n'a pas de grandes stars archéologues. Qui porte un peu le...
Salouane, bientôt.
Tu veux devenir archéologue? C'est vrai que tu voulais être
archéologue. Ouais,
je voulais
être. Et pourquoi tu ne l'es pas devenu? Qu'est-ce qui te passe?
C'est pas mon interview, c'est pas mon portrait d'histoire.
Non, mais ça peut être intéressant.
Un futur portrait d'histoire.
Mais le truc, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on a quand même une grosse tradition de gigagros historiens qui occupent l'espace médiatique. Alors, c'est le cas maintenant, mais... Vous pensez au 19e siècle, il y a combien d'historiens qui sont ministres ou qui sont députés, il y en a une tétrachée en fait.
Ouais.
Et du coup, il y a une tradition énorme historique en France et l'archéologie est un peu en recul quoi, sachant qu'en plus il y a baston entre les faut imaginer qu'il y a baston entre les deux camps. Vous avez sans doute vu vous des bastons entre historiens et géographes.
Oui,
enfin, classico hein, j'ai été étudiant aussi hein.
Voilà.
Bah dites-vous que entre historiens et archéologues, c'est pareil. S'il y a vraiment des tensions dans l'absolu ridicule hein, parce qu'en fait on travaille sur la même chose
et on
a un apport complémentaire
.
mais par contre ça peut paraître plus obscur mais en réalité l'archéologie est sans doute plus accessible que vous l'imaginez parce que en fait l'archéologie en tout cas les chantiers archéologiques universitaires fonctionnent avec des bénévoles et l'essentiel des bénévoles en général c'est des étudiants alors bon, bien évidemment en archéologie mais pas que. On peut avoir des étudiants qui viennent de n'importe où ailleurs, je veux dire. On peut avoir même juste des passionnés. Hein. Là, on a eu, il y a quelques années, on faisait des chantiers de fouilles à Alonne, et on a eu par exemple, un prof d'histoire. Bon, vous direz, prof d'histoire, mais on a eu un plombier, par exemple.
Ah ouais.
Parce que le mec, en fait, il kiffait l'histoire, quoi, tout bêtement, et il s'est dit, bah là, moi, je fais ça.
Entre deux douches.
Ouais, c'est ça. Je prépare un radiateur à Paris.
Entre deux boulons.
Et du coup,
mais c'est intéressant.
Et du coup, si vous voulez devenir archéologue, en fait, le mieux à faire, c'est effectivement, là, ça va pas tarder, normalement, d'ici, la fin du mois ou mi-mars, sur le site du ministère de la Culture, en fait, va y avoir un espèce d'énorme agenda qui va lister toutes les fouilles programmées en France, qui cherchent des bénévoles, et en fait, à partir du moment où vous êtes majeur, autrefois, on pouvait faire des mineurs, mais c'est un peu compliqué. Mais à partir du moment où vous êtes majeur, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y aller. Il y a souvent peu ou pas de prérequis. Alors, bien évidemment, c'est du bénévolat, donc vous serez pas payé. Par contre, normalement, vous serez logé, nourri gratuitement, dans la plupart des cas. Et ça vous permet de vous faites de l'archéologie. Quoi.
Et c'est chaque année en mars ou c'est exceptionnel
Non, c'est tous les ans, parce que l'archéologie, c'est vraiment un système cyclique où, en gros, pour schématiser, on fait les fouilles en été. Et en automne on fait les rapports, on les rend les rapports, et en hiver on dépose les dossiers pour l'été d'après.
D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant de voir le planning d'un réel archéologue.
Ouais, donc on se retrouvera tous sur un même chantier.
C'est ça.
C'est parti.
Et du coup, comme dit, voilà. Et en fait, du coup, l'archéologie, pareil, c'est un peu, on déborde un peu sur le coup de la médiation, mais en fait, l'archéologie, c'est complètement une science participative, parce qu'en fait, pour l'établissement des données de fouilles, pour l'intégration des données brutes, d'une certaine façon. On fait appel à pas juste un spécialiste, mais à toute une équipe. Et équipe, encore une fois, qui peut être constituée de, n'importe qui dans le bon sens du terme, quoi.
Ouais. Oui, parce que après, alors j'imagine qu'il faut pas non, enfin c'est quand même à contrôler. C'est pas parce qu'il y a pas peu, pas ou peu de prérequis qu'on peut faire non plus n'importe quoi.
Ah non, alors sur le terrain, ce qui se passe, c'est qu'en gros, les deux premières semaines, vous êtes super encadré par justement des archéologues, des entre guillemets vrais archéologues. Je dis entre guillemets vrais archéologues parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de titre d'archéologue comme un titre de médecin, il n'y a pas une société qui regroupe tous les archéologues. Donc c'est, mais bon, des archéologues, en gros, vous encadrent pendant deux semaines, vous apprennent les rudiments de la fouille. Et après, bah pour le reste du chantier, yop la boum quoi, c'est parti.
Donc il y a plus qu'à. Bah en tout cas, c'est super intéressant. Enfin je trouve.
Je tease peut-être un truc, mais
dis-nous cela.
Peut-être un retour d'expérience. Hein, on sait jamais. 2022.
Ah tu vas partir en fouille.
On sait jamais. Hein. Tout est possible.
Allez,
on
se retrouvera là-bas.
Rendez-vous en mars sur le site du ministère de la Culture.
C'est ça. On va se faire une petite pause musicale. On va s'écouter. C'est DJ Mehdi, Signatune, si je le dis bien. C'est ça.
C'est Thomas.
Oui, normalement.
Signatune. C'est bien prononcé parce que moi et mon anglais évidemment. Ça, par exemple, c'est quelque chose dont je ne saurais pas faire une interdisciplinarité entre le français et l'anglais. Voilà, dommage. Mais on se retrouve juste après pour parler cette fois-ci de ce qu'on a déjà un petit peu évoqué finalement, mais la divulgation, la médiation scientifique. Donc, à tout de suite. La percée d'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire pour son émission spéciale en présence de Arthur Lenger et c'était DJ Mehdi Signatune. Tune, je ne saurais toujours pas le dire, c'est exceptionnel. Et on va aborder maintenant le sujet donc de la médiation scientifique, c'est ce qu'on évoquait déjà un petit peu juste avant. Ce sujet, alors c'est vrai que les travaux d'historiens, c'est un petit peu, ça peut paraître parfois un petit peu inaccessible. Ouais. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec des titres de thèses qui sont
des gros livres,
parfois
plein de pages.
Un peu compliqués. Votre titre, je le recite peut-être, c'était "Modalité d'occupation des habitats médiévaux dans une approche croisée historique, archéologique et chimique". Ça, c'est vrai que ça peut faire peur.
Ouais. sur le principe. Ouais.
Mais lors du concours Expose ta thèse de l'Université du Mans, où vous avez remporté le troisième prix, vous avez dit, en tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site, parler un langage compréhensible et satisfaisant pour toutes et tous, qu'ils soient spécialistes ou non, me semble être une qualité nécessaire pour l'avenir de la recherche scientifique, que ce soit au sein de l'université ou auprès de l'ensemble de la population. Est-ce que vous pouvez peut-être réexpliquer un petit peu pourquoi, selon vous, aujourd'hui, c'est important, ou en tout cas, c'est même peut-être essentiel de réussir à, à exposer ses travaux à toutes et tous de manière beaucoup plus simple que ce ne l'est peut-être aujourd'hui.
Ah, déjà c'est important juste du point de vue vraiment de la d'une certaine façon de la mission de service public parce que les chercheurs sont des fonctionnaires eux aussi. Du coup ils sont payés avec vos impôts et la moindre des choses c'est pas peut-être pas non plus à ce point-là, mais l'idée, c'est quand même que ça serait quand même bizarre qu'on ait des gens qui sont justement financés par de l'argent public et qui sont pas capables d'aller vers le public, justement, pour expliquer ce qu'ils font, dans des termes simples. Ça, parce que là, pour l'instant, justement, les sujets de recherche, c'est déterminé par des instances qui décident que tel sujet serait intéressant ou pas, de façon relativement opaque, je vais pas vous le cacher. Ouais. Je me considère comme chanceux de faire une thèse, parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient sans doute des projets tout aussi intéressants qui n'ont pas été pris, qui n'ont pas été sélectionnés. Donc il y a ça. Et du coup on pourrait pourquoi pas imaginer dans le futur une méthode en fait plus démocratique de finalement fixer c'est quoi les axes de la recherche en demandant au public justement qu'est-ce qui vous intéresserait qu'on développe en fait. Alors en mettant des quotas si vous voulez pour éviter que tout finisse en faisant que de la recherche dans l'armée, dans la médecine parce que c'est ce qui paraît le plus essentiel d'une certaine façon bien évidemment pour éclairer le choix mais on pourrait imaginer que on délègue ça finalement à un jury d'une certaine façon mais tiré au sort parmi la population et donc du coup on pourrait imaginer qu'effectivement le chercheur a expliqué pourquoi ce qu'il fait est important pourquoi c'est soit important soit juste intéressant. Parce qu'encore une fois, l'histoire, ça n'a pas forcément vocation. Enfin, même dans l'absolu, la recherche dans l'absolu n'a pas forcément besoin d'avoir une utilité. En fait, ça peut paraître bizarre de dire comme ça parce que quand on pense recherche, c'est vrai qu'on pense souvent recherche et développement, où on se dit ouais, on recherche un truc parce que derrière, ça va permettre d'améliorer la vie des gens, de fabriquer un nouveau truc, comme ça. Il faut pas oublier que la recherche, c'est aussi juste la création de nouvelles connaissances.
Ouais,
c'est même d'une certaine façon, c'est en fait la définition première de ce que c'est que la recherche. C'est avant tout créer des connaissances, mieux comprendre le monde qui nous entoure ou pour notre cas le monde qui s'est passé avant parce que le monde actuel encore une fois puise ses racines dans ce qui s'est passé avant quoi.
Ouais. Parce que c'est vrai que ça c'est aussi c'est un peu connexe. Oh, je sors des mots. Non, j'en sais rien, je sais même pas ce que je dis. Mais en gros c'est vrai que c'est un peu parallèle au sujet des financements des recherches parce que c'est vrai que c'est souvent dans l'intérêt de alors ça peut être les collectivités ou en tout cas dans l'intérêt. Donc souvent c'est vrai que quand on a des recherches qui peuvent être qui peuvent paraître anodines en disant oui, c'est quoi lui, qu'est-ce qu'il fait lui et forcément on n'obtient pas les financements. Ça c'est vrai que c'est assez compliqué, j'imagine ce genre de choses et ça mérite pourtant, alors que c'est des thèses qui méritent aussi tout autant de financement.
Oui, parce que ça améliore la connaissance sur un sujet qui peut-être derrière créer un autre sujet et justement là créer un financement.
Tout à fait. Et donc qu'est-ce qui manque aujourd'hui finalement pour réussir à toucher le public, le grand public?
Après le problème c'est qu'il y a aussi, c'est un boulot. Hein.
Ouais.
Enfin, là avec votre émission, vous d'une certaine façon vous faites aussi de la médiation scientifique.
Oui,
vous vous rendez compte que c'est pas juste j'arrive, je me mets les mains dans les poches et je débite quelque chose.
Ouais. Complètement.
Ça peut pas fonctionner en fait. Donc c'est un travail en plus à faire. C'est un travail auquel on n'est pas formé en fait. Comme dit, vous voyez le cursus que vous avez suivi, vous avez suivi finalement le même cursus qu'un historien. Mm-hmm. À aucun moment, vous avez fait quelques exposés oraux, mais dans l'absolu, on vous a pas formé à simplifier un sujet. Au contraire, on vous a formé à creuser le plus possible le sujet. pour avoir l'information la plus détaillée possible. Et du coup, bah, on demande un peu le chemin inverse aux chercheurs, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y en a qui arrivent bien, il y en a qui arrivent moins bien, il y en a qui en ont rien à faire.
Ouais.
Ça existe aussi. Enfin, alors, faut pas imaginer que les chercheurs, c'est forcément un monde de gens vertueux, qui sont tous qui ont tous de très nobles très nobles sentiments.
La vertu dans le cœur.
Voilà, c'est ça. Le monde des chercheurs, c'est un groupe social, comme n'importe quel groupe social, vous avez des gens très bien, comme des gens moins bien. Pour pas dire mauvais. Il y a des chercheurs, si vous voulez, qui partent du principe que, alors il y en a de moins en moins, mais ça existe toujours, et je vois pas pourquoi ça disparaîtrait. Il y a des chercheurs qui partent du principe que oui, moi je fais ma recherche, je produis des sciences, je produis de la connaissance, je publie des articles, j'écris des bouquins, donc c'est à disposition de tout le monde, mais laissez-moi dans ma tour d'ivoire, travailler tranquille. Ce qui est une posture qui, d'une certaine façon, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Oui,
je suis pas trop d'accord, mais oui. On peut entendre que qu'on peut envisager la recherche d'une certaine façon, de cette façon-là. Encore une fois, moi, je pense que, comme dit, quitte à créer du savoir, l'idée, c'est quand même de le rendre disponible au plus de monde possible. Ouais. Et donc, effectivement, si on se met à parler avec notre jargon, parce que même en histoire qui, dans l'absolu, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que l'histoire est pas toujours considérée comme science, hein, c'est qu'en histoire, on utilise finalement rarement des mots très compliqués. Dans le sens où c'est des mots qui peuvent arriver dans la langue de tous les jours. Oui, alors on va avoir parfois des concepts un peu chelous, l'incastamento par exemple, oui. Des choses comme ça. Ok, d'accord. Mais dans l'absolu, ça, on peut l'expliquer en deux, trois phrases et tout le monde peut comprendre. Et du coup, justement, le truc, c'est que pourquoi pas faire l'effort justement de faire en sorte que ça soit compréhensible pour tout le monde et de simplifier. Parce que l'idée, c'est que on peut simplifier sans trahir en fait. Alors bien évidemment, on n'aura jamais la même précision. On sera jamais aussi précis que si on employait toutes les notions, les concepts qui ont été forgés par les historiens et compagnie. Mais souvent, faut reconnaître, on peut s'en passer pour expliquer finalement ce qu'on fait.
Et puis ça peut permettre de susciter aux gens un intérêt, d'être une première approche pour après ils aillent peut-être en savoir plus aussi sur ces.
Ça peut être une porte d'entrée vers l'histoire.
Ouais, d'autant plus que encore une fois, on est en 2022.
Ouais.
On a Internet, on a plein de ressources sur le net. Alors bien évidemment, toujours pareil, hein, première chose qu'on vous apprend en première année, attention Internet, tout n'est pas bon.
Wikipédia.
Mais c'est vrai aussi dans les livres. Attention, hein, c'est pas parce que quelque chose est édité et écrit que c'est forcément bon. En histoire, on le sait très bien.
Ouais.
On vous rappelle qu'on a un candidat fasciste qui dit que son programme a été dicté par l'histoire. Bon, il y a bien évidemment les historiens qui ont réagi, encore heureux. Mais la question, c'est effectivement, est-ce qu'on n'a pas un déficit de médiation en histoire? Parce que d'une certaine façon, si on avait une meilleure connaissance globale de l'histoire, on peut imaginer que ce genre de discours ne pourrait pas avoir de prise. Ou moins, en tout cas. Parce qu'on pourrait dire, mais attendez, monsieur, là, vous êtes en train de me dire n'importe quoi. Et tout le monde pourrait avoir ce recul-là. Enfin, tout le monde, le plus possible.
En tout cas, la majorité, ouais.
Donc, et c'est pour ça que je dis aussi que j'ai un peu de mal avec les chercheurs qui sont dans leur tour d'ivoire et qui veulent pas communiquer parce que, communiquer avec le plus grand nombre. Parce que justement, il y a d'une certaine façon peut-être un rôle social là, en fait, de l'historien dans la société, en fait. Il y a un enjeu, je pense.
Oui, c'est même très, la preuve, c'est que c'est dans l'actualité, c'est que ça pose question des choses, enfin des, comment dire, j'ai même pas le mot, mais des erreurs historiques très, enfin, énormes peuvent sortir sans la moindre contestation ou correction des propres, même des journalistes, des fois qui, oui, d'accord.
Il y a des gens qui adhèrent,
Il y a
vraiment un manque du côté médiation.
Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose.
Oui, parce que le discours semble plausible. Parce que si vous connaissez rien au sujet et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous assène des affirmations d'un air très assuré, comment vous pouvez savoir qu'il est en train de vous raconter n'importe quoi?
Complètement.
C'est difficile. Alors pour certains trucs, on peut bien évidemment se dire oui, mais ça de toute façon c'est très très pointu. Mais sur des éléments aussi d'une certaine façon banals, qu'on soit bien d'accord, hein, ce genre de discours, en règle générale, à la fin de votre première année, vous êtes tout à fait capable de dire mais c'est n'importe quoi.
Complètement.
Vous avez déjà vu pas mal d'éléments et vous avez les ressources méthodologiques d'une certaine façon pour dire attends, ça, je vais vérifier, ça marche ou pas, quoi.
Ouais, tout à fait.
Mais le problème, encore une fois, c'est que et c'est pour ça que je disais que même si moi c'est une attitude qui m'agace un peu, je peux aussi comprendre qu'il y ait des chercheurs qui ne fassent pas ça pour la simple raison que regardez ce que c'est l'emploi du temps d'un chercheur. Et vous verrez qu'en fait on n'a pas le temps.
Ouais.
On n'a pas le temps et surtout le pire c'est que si on est un peu carriériste. Et encore, hein, je dis un peu, c'est pas des trucs vénères ou dans longue qui iraient le plancher, hein, c'est juste un tout petit peu carriériste. Si on veut juste un peu que notre carrière avance, bah, comment un chercheur évalué? Il est évalué sur les publications qu'il fait.
C'est ça, j'allais dire, mais non publié, publié.
Voilà. Mais les publications scientifiques. C'est-à-dire les publications que, à part les historiens, personne va lire.
Ouais, c'est ça.
La médiation, la vulgarisation, ça ne rentre pas dans les critères de notation, d'une certaine façon, des enseignants. Enfin, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, quoi. Donc, du coup, on les incite pas à en faire, en fait.
Oui, parce que ça veut dire que tout le travail qui serait fait sur la vulgarisation, eh ben, c'est du travail qui sert presque,
en tout cas, directement à l'arrière-plan.
Ouais, voilà, qui ne servirait presque à rien.
Il n'est pas valorisé.
C'est ça. Alors, ça sert pas entièrement à rien, parce qu'en fait, il y a quand même un effet positif pour les chercheurs de devoir vulgariser. C'est que ça permet de prendre du recul sur son sujet, en fait. Et souvent, on se rend compte, en fait, on peut se rendre compte de certains axes de développement, en fait, qu'on n'aurait pas imaginé. Ou des choses comme ça. C'est d'autant plus vrai dans la médiation. Alors, différence entre vulgarisation et médiation, c'est plus ou moins des synonymes, hein, qu'on soit d'accord. Mais l'idée, c'est que dans la vulgarisation, on a quand même une posture très, très passive, en fait. Où, en gros, c'est quelqu'un qui sait, qui va venir vous expliquer, mais avec des mots que vous comprenez. En fait, c'est un cours, finalement, d'une certaine façon. Alors que la médiation, l'idée, c'est que on met le public en situation de créer du savoir, même si c'est factice, mais c'est pour lui montrer comment ça marche, comment on fait, et comment, et du coup, il va créer par induction lui-même son savoir. Et du coup, en fait, dans les ateliers de médiation, ce qui peut être super cool quand on présente justement ces recherches qui paraissent complètement faramineuses, mais qu'on a vulgarisées, pour le coup, bah, en fait, bah, le public peut pose des questions souvent, mais pourquoi ça? Pourquoi, en fait, vous vous êtes pas posé ces questions-là? Et en fait, parfois, les questions les plus naïves, entre guillemets, sont, bah, en fait, c'est juste complètement un axe de recherche, quoi.
Ça débloque de nouvelles pistes.
Bah oui, bah, bien sûr. Et c'est pas, et comme dit, c'est pas parce que la personne n'est pas spécialiste que, bah, si elle se concentre un peu sur le truc, pas plus bête qu'un autre, elle peut donner des pistes intéressantes. Et c'est pas négligeable, en réalité. On a parfois des surprises comme ça où on se rend compte, mais ouais, je suis complètement passé à côté de ça. Heureusement que j'ai fait ce truc-là.
Parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être aussi ce qui explique la difficulté de vulgarisation de peut-être certains chercheurs, c'est d'être très forcément dans les recherches, très fermé.
Ouais.
Et puis c'est vrai que ouvrir après à devoir simplifier presque ses recherches, certains peut-être, ouais.
Ça leur fait peur. Il y en a qui le vivent comme une trahison aussi.
Ouais.
Et encore une fois, ça peut s'entendre parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau de précision. Que se dire non, il va falloir que je dégrade ce niveau de précision pour expliquer ce que je fais. Ils peuvent l'avoir mauvaise, quoi. Ça peut s'entendre. Et on a aussi, faut pas oublier, enfin, bien évidemment, encore une fois, je disais, hein, c'est un corps social complet. Bien évidemment, il y en a aussi qui pètent plus haut que leur cul et qui partent du principe que eux, ils sont au-dessus de tout le monde et que, du coup, ce qu'ils disent vont forcément être incompréhensibles par la plèbe, quoi. Ça existe aussi, hein.
Il y en a, ouais.
Encore une fois, faut pas idéaliser les chercheurs non plus. Hein.
Ouais, le paradoxe, en plus, c'est qu'en France, on est quand même, une grande nation qui aime bien l'histoire.
Oui,
quand même. On en accorde assez beaucoup d'importance. Je vois par exemple aux États-Unis, ils ont pas le même, rien que dans le niveau des cours, le volume horaire des cours, ils ont beaucoup moins d'histoire que nous.
Ça se voit. Et même sur les sur la géographie.
Il n'y a pas assez de médiation comme ça.
La géographie
pour le grand public.
Mais ça c'est effectivement.
En fait, ils ont pas de cours.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais ils ont vraiment très peu de cours. Et c'est aussi effectivement, c'est pour ça aussi que la médiation, alors pour le coup, la médiation scientifique en histoire, c'est vraiment entre guillemets important en France, c'est parce que l'histoire, ça fait vraiment partie de la culture du pays, en fait.
Complètement.
Suite à la Révolution française, en fait, en 1789, hein, bah, il a fallu recréer l'unité du pays, en fait. Et les décisions politiques ont fait qu'on va créer l'unité du pays sur l'histoire, en fait. C'était un choix arbitraire, hein, d'une certaine façon, on aurait pu faire sur autre chose. Mais ils l'ont fait là-dessus, et ça est continué jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que vous avez chaque fois des crises nationales, chaque fois qu'on parle de toucher les programmes d'histoire.
Oui, complètement. Ouais.
Si vous regardez, c'était vrai en 2011, c'est vrai en général quand on est les campagnes présidentielles, c'est pareil, ça éclate toujours. Parce qu'en fait, il y a un lien très étroit finalement entre l'idée d'identité nationale. Alors je dis ça, pas mettre en lien avec toutes les factions identitaires. D'une certaine façon, si, en fait, les factions d'extrême droite identitaire se basent aussi
sur le roman national.
Ouais. Mais encore une fois, le roman national, alors ça peut avoir une utilité dans l'absolu quand on est jeune pour avoir une idée de la chronologie, de comment ça se déploie. Après,
faut pas s'en contenter.
Ça reste une base.
C'est ce qu'on fait en primaire. Hein. Moi, je me souviens qu'on voit les Gaulois, ensuite tout ça, tous les grands personnages. Mais à la fin, après, dès le collège, c'est
fini parce qu'en fait, ça n'a pas. comment dire, ça n'a pas grand sens en fait d'avoir une histoire romancée en fait, parce que finalement en fait qu'on ait des grandes figures dans l'absolu, c'est pas un problématique. Par contre, il faut les replacer dans leur contexte et pas les idéaliser. Alors que le roman national, justement, c'est oh là là, regardez comme Clovis, il est parfait. Ouais. Et oui, non, mais c'est ça le problème en réalité. Parce que, comme dit, bon, les grandes figures. Alors, comme dit, vous m'avez sans doute eu en cours. Moi, j'en joue beaucoup et je dis non, mais on s'en fout complètement. C'est pas vrai. Bien sûr que les grandes figures, c'est important parce que c'est la personnification en fait de certains éléments, ça peut aider à comprendre. Mais encore une fois, faut juste les remettre dans leur contexte, quoi. Et comme dit, encore une fois, rien que dans le terme roman national, hein, roman aux dernières nouvelles, c'est une fiction.
Complètement. Ouais.
Et l'historien aux dernières nouvelles, lui, son but, c'est d'approcher le plus proche possible de la vérité, ouais. En fait, et pas de construire une histoire. C'est le problème, c'est que l'histoire, en fait, c'est un terme polysémique qui à la fois recouvre l'histoire, ce qui s'est passé, mais aussi l'histoire, l'histoire des trois petits cochons, par exemple.
Non, c'est vrai.
Et il y a en fait, c'est bête à dire, mais le fait que ça soit le même terme joue pas mal en fait sur les confusions. Ah oui.
En tout cas, c'est très intéressant. Je vois que le temps file à une allure pas possible. C'est le moment de la musique de notre invité. Et donc, vous avez choisi Luc Arbogast. C'est un très bon choix. Vox Clamantis. Alors, j'ai pas le temps de vous demander pourquoi, mais peut-être. Ou si rapidement peut-être pourquoi cette chanson.
C'est un peu en fait c'est parce qu'on a un lien avec la médiation d'une certaine façon. Ouais. C'est de la médiation culturelle finalement où il se propose de recréer de la musique médiévale sans suivre d'hypothétiques partitions médiévales mais en s'inspirant de ce qu'on sait de la musique médiévale.
Et ben c'est parfait, on s'écoute donc Luc Arbogast, Vox Clamantis et on se retrouve juste après.
La percée d'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez toujours La Percée d'Histoire pour son émission spéciale avec Arthur Lenger. Et le temps passe, mais c'était passionnant. On va enchaîner très très rapidement sur le second thème qui parlait de la place du Moyen-Âge dans la fiction, puisque c'est vrai que le Moyen-Âge aujourd'hui est peut-être même la période la plus abordée, je pense, dans les fictions. Je sais pas ce que t'en penses, Alouane.
Ouais, complètement, c'est pour moi la période la plus représentée, que ce soit dans les films, les séries, les jeux vidéo aussi, même tout ce qui est univers un peu alternatif, médiéval, fantasy, c'est médiéval. Il y a toujours le côté Moyen-Âge qui est appuyé.
Et alors, une question simple, Arthur Lenger, pourquoi ? Pourquoi
Parce que il y a une... Bah, déjà parce que c'est une période qui est pas forcément super bien connue. Alors vous, ça peut vous paraître un peu bizarre
parce que... Beaucoup de clichés
autour de... Ouais, il y a beaucoup de clichés parce que justement, la période est pas si bien connue que ça. Ouais. Alors, comme dit, bon, nous, Européens, suffit qu'on se balade à peu près n'importe où et on tombe sur une ruine et puis voilà, on est dedans, quoi. Mais faut bien comprendre que il y a quand même une énorme majorité des produits culturels qui viennent d'Amérique.
Oui.
Aux États-Unis, je vous rappelle que au Moyen-Âge, l'actuelle culture dominante aux États-Unis était pas présente, c'est des Européens, pour rappel. Donc bien évidemment, pour eux, c'est mystérieux. Et du coup, mystérieux est très peu connu. Et du coup, bah plus c'est mystérieux et moins c'est connu, plus on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est un immense terrain de jeu, en fait, qui est à la fois considéré comme étant les racines de la culture actuelle, ce qui peut paraître étrange, hein, parce que on pourrait se dire que on a des éléments antiques finalement de la période précédente qui influent, mais non, on a vraiment cette implantation médiévale finalement des racines entre guillemets de notre culture, ce qui est à la fois vrai et discutable. Bien évidemment, faut les interroger, mais il y a cette idée là, quoi. Et effectivement, comme le disait votre collègue, il y a plein de clichés encore sur le Moyen-Âge, c'est compliqué.
Mais c'est une période tellement vaste, en plus.
Mais 1000 ans,
On dit l'époque moderne, c'est 2-3 siècles, l'époque contemporaine, c'est 2-3 siècles. Le Moyen-Âge, c'est
1000 ans.
C'est 2 siècles, quoi. Ouais.
C'est incroyable. C'est encore une fois dans la
fiction. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que, aujourd'hui, c'est à la fois une période peu connue, beaucoup de clichés, etc., qui fait que c'est compliqué, quoi.
Ouais. Et souvent, on a qu'une seule, une seule facette du Moyen-Âge. En fait, souvent, c'est le Moyen-Âge central ou la fin du Moyen-Âge qu'on représente. Totalement. Mais, sur le début, c'est peu, quoi. Et dans les œuvres culturelles, d'ailleurs, on le voit. Si vous regardez les sujets, en fait, finalement, que ce soit des séries, des films, des jeux vidéo, dans l'immense majorité des cas, il y a trois thèmes, en fait. Il y a les croisades, avec le sous-thème de Robin des Bois, parce que Robin des Bois, on le cale toujours à la troisième croisade.
C'est ça.
Vous avez la guerre de Cent Ans.
Oui.
Où on cale en sous-thème Jeanne d'Arc ou les rois anglais si vous êtes du côté plutôt anglophone de la force, quoi. Et en troisième thème, troisième thème qui est relativement récent entre guillemets, mais tout simplement parce qu'avant on savait vraiment rien du tout et que là on a eu des données. Alors quand je dis récent, je parle des années 80, on se calme, je suis un peu vieux, mais bref, il y a le terme des Vikings, en fait.
Oui,
pareil, on en bouffe à toutes les sauces.
Ça, c'est très récent.
Là, il y a encore un film, je crois, qui va sortir
Northmen. Ouais. Et même il y a une série sur Vikings, spin-off de la série Vikings qui est faite, ça continue. Dernier Assassin's Creed, Valhalla.
Oui. Parce qu'en fait, ce qui est super fort avec les Vikings, c'est que, il y a très peu de texte, en fait.
Ouais.
Donc, les Vikings, on les connaît essentiellement grâce à l'archéologie. Et bon, comme vous l'avez dit précédemment, l'archéologie, dans l'absolu, c'est vrai que c'est encore moins connu que l'histoire. Ouais. Et du coup, c'est plus mystérieux. Donc, on peut encore balancer plus de n'importe quoi. D'ailleurs, concrètement, encore une fois, tout ce que vous voyez sur les Vikings, en vrai, prenez pas ça pour un argent comptant, hein. Les mecs et les meufs énervés qui font tout le temps la fête et qui sont ultra violents, on est loin d'une société comme ça. On est même plutôt sur une société qui est plutôt juridiquement très rigide, et plutôt sur une certaine façon, sur un peuple, en fait, de marchands plus que de guerriers, en fait. Hein. Et encore une fois, les Vikings, c'est pas une nation, c'est une classe sociale, entre guillemets, des royaumes scandinaves.
On se fait viking, on n'est pas viking.
Ouais. Ce qui est compliqué,
c'est un métier, en fait.
C'est que cette image-là, comment arriver à la défaire après quand elle est autant imprégnée dans la tête des gens, dans la tête des enfants qui vont être là, je joue à viking, machin, carrière la série. Comment après réussir à déconstruire ça? Ça, c'est aussi, je pense, l'enjeu finalement aussi des médiations.
Et en fait, c'est là qu'on raccroche le truc, c'est que la médiation, justement, on peut partir des représentations, justement, fictives ou pas. Mmh. On part des représentations qu'ont les personnes pour leur dire, ok, donc toi tu connais ça, toi t'as vu ça, et maintenant bah je te montre, ouais mais regarde ce qu'on a de l'époque et compare, tu vois, est-ce que ça marche, tu vois, ça colle pas bien. Et après, bah après de toute façon l'histoire des représentations, encore une fois, on peut la faire. Hein. Pourquoi les Vikings sont représentés comme ça? Bah encore une fois, vous avez toute l'histoire des fameux moines qui mettent tous les moines médiévaux qui mettent tous les qualificatifs possibles sur les Vikings parce que les Vikings leur tombent dessus. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que bah comme des débiles, ils entassent des richesses dans un endroit non protégé par des mecs qui sont pacifistes en plus. Bah oui, non mais faut pas laisser des opportunités comme ça les mecs quoi. Tout bêtement quoi.
En tout cas, on va avoir tout juste le temps pour le portrait d'histoire. Ça on va tenter, je sais pas ce que ça va donner. Le portrait d'histoire, donc oui, 3 minutes. Donc c'est le portrait d'histoire, c'est un peu le même principe que le portrait chinois, mais sauf que bah c'est en version histoire. Vous l'avez compris. C'est pas très rigolo. Compliqué. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui?
Waouh. J'ai le droit de réfléchir un peu.
Ouais. 3 minutes.
Bon, la réponse facile, ça serait de dire le roi Arthur. Comme ça, en plus, on n'a pas ça colle avec le prénom et c'est pas sûr que ce soit un personnage historique. Un personnage historique.
Le roi Arthur, on peut le valider, c'est pas mal.
Ouais, c'est un peu facile hein, quand même. Mais il y a une idée qui est intéressante quand même, c'est que et encore une fois, ça recoupe un peu ce que je disais précédemment sur la recherche, c'est que c'est pas le roi Arthur tout seul, c'est le roi Arthur avec son équipe en fait. Bon, alors on a eu des représentations un peu comiques, bien évidemment. Oui. On n'est peut-être pas passé à côté. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que encore une fois, c'est un travail d'équipe pour trouver le Graal et d'une certaine façon, ça peut être une représentation de la recherche d'une certaine façon.
Bah c'est validé.
Une belle comparaison.
Si vous deviez vivre à une période de l'histoire.
Voilà, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce qu'en vrai, comme dit, je vous dirais ouais le Moyen-Âge parce que je travaille dessus et c'est une période qui m'intéresse quoi. Mais après, quand vous voyez les conditions de vie au Moyen-Âge, j'ai envie de dire, voilà. Je suis très très bien au XXIe siècle.
C'est mieux d'y être de passage quoi. Ouais, vous avez parlé tout à l'heure du XVIe, XVIIe de la marine peut-être.
Ouais, alors XVIe, XVIIe c'est encore pire.
Le scorbut.
Niveau hygiène. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, niveau hygiène et niveau c'est une chute par rapport au Moyen-Âge. Non, en vrai, je suis bien au 21e. Hein.
Il est 21e.
En plus, on a Internet, franchement.
Oui, bah oui.
Rien
oui.
que ça, déjà.
Si vous étiez une invention historique.
Une invention historique.
Enfin, historique ou pas, mais en tout cas, une invention. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu plus récent aussi, mais.
Ouais. Et pourquoi l'imprimerie?
Mais qui marque.
Alors, ça serait pas l'imprimerie, ça serait plutôt, c'est un peu prétentieux, hein, mais ça serait plutôt l'encyclopédie, en fait.
Ah ouais.
Ouais, parce que alors bon, ok, c'est prétentieux, hein, je dis pas le contraire, mais non, l'idée c'est que l'encyclopédie c'est quand même dingue, bah ou Wikipédia hein, si vous voulez, pour la version moderne, mais c'est quand même ouf de se dire qu'à un moment on s'est dit on va essayer de choper tous les savoirs possibles et de les mettre en forme et de les rendre accessibles en fait d'une certaine façon, encore une fois. Mm-hmm. Alors certes, un public érudit qui sait lire et tout ce que vous voulez à l'époque, mais l'idée quand même c'est on a besoin de connaissances, on les cherche. Et encore une fois, ça recoupe un peu ce que je fais dans ma thèse. Dès que j'ai besoin de choses, par exemple là, j'ai dû étudier à un moment de la biologie des sols, bah je suis allé voir ce que font les biologistes, quoi. Mmh. Pas de problème, quoi. Je suis plutôt très curieux. Donc l'encyclopédie, ça me semble un bon truc.
Et dernière question, voilà, c'est pas forcément historique, mais si vous aviez un pouvoir, donc c'est un peu plus large.
Waouh.
C'est la question pour terminer l'émission.
Ouais, la dernière.
Bah. Vu mon métier entre guillemets le plus thématique, ça serait de voyager dans le temps, bien évidemment. Hein, on va pas se mentir.
Bah tout historien.
Ça serait bah incroyable. Ouais. Bah ouais. Mais ouais, si voyager dans le temps, ça serait cool quand même.
C'est vrai que ça serait
plus. Et bah voyager dans le temps. Merci beaucoup Arthur Lenger.
Bah, je vous en prie.
C'était super intéressant d'avoir votre point de vue d'historien en plus sur tous ces sujets, donc et qui sont pas forcément toujours très abordés. Merci également Salouane, merci Thomas, merci Gauthier.
Merci.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour une troisième émission Portrait d'Histoire. Ça y est, on va continuer.
C'est la série est lancée.
C'est ça, en compagnie cette fois-ci de Benoît Musset, donc qui lui aussi est enseignant chercheur à l'université du Mans et qui nous parlera de ses recherches sur le commerce dans les campagnes du Maine au XVIIIe siècle, sujet qu'il qualifie lui-même de un peu moisi, comme cela, mais qui parle de vrais gens, et c'est parfois un peu comme dans Kaamelott. Et voilà, je cite.
C'est le mail. Hein.
Donc, ça promet en tout cas d'être là aussi très intéressant. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et passez une excellente soirée. Merci à toutes et tous. Merci.
À la semaine prochaine.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libre la nation !
Libre la nation !
Rentre ici, Jean Moulin. Avec ton terrible cortège.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir!
Il faut rescroupir. Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit groupir.
But alors, you are French?
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Monsieur, un sarrasin.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Maintenant.